Bonsoir Flash, vous êtes un combattant français de la Légion internationale en Ukraine. Vous ne souhaitez pas, pour des raisons qu'on peut comprendre, nous dire dans quelle zone précisément vous combattez, mais juste depuis combien de temps vous êtes sur le front ?
Ouais, bonsoir. Bah, moi, je suis arrivé en Ukraine au tout début d'avril 2022. Et après le front, on y passe une grande partie du temps, que ce soit sur les opérations ou alors à proximité du front. Et après, de temps en temps, il y a des rotations pour vraiment se reposer.
Et quel a été le déclic ? Pourquoi vous avez décidé de partir ?
Moi, je suis parti après l'invasion de l'Ukraine, le temps d'attendre pour recevoir mon passeport. Et ensuite, je me suis dirigé vers l'Ukraine à la suite des massacres de Boutcha, quand j'ai vu aussi le début de la résistance autour de Kiev et de Mariupol. En fait, sans attendre la réaction des Européens ou des États-Unis, les Ukrainiens sont partis direct se défendre d'eux-mêmes. Et ça m'a motivé à aller les aider dans la défense de leur pays.
Vladimir Poutine a fait de la reprise de la région de Koursk un préalable à toute trêve. La situation là-bas est extrêmement difficile pour les Ukrainiens qui ont commencé à se replier. Kiev a ordonné ce soir l'évacuation de plusieurs localités. Est-ce que l'armée ukrainienne peut encore résister et est-ce qu'elle doit le faire ou est-ce qu'elle a intérêt à se retirer complètement ?
Ça, c'est des questions qui sont bien trop hautes par rapport à moi, à mon niveau du travail que j'ai à faire. Ça, c'est des questions qui concernent plus les généraux, les ministres, éventuellement le président ukrainien.
Mais les militaires, les soldats sur le front, est-ce qu'ils ont envie de résister jusqu'au bout ? Ils se disent, là, sur la région de Koursk, que c'est peine perdue ?
Non, moi, peine perdue, non, parce que de toute manière, il y a la motivation, l'envie de ne pas avoir fait tout ça pour rien. Donc les militaires restent très motivés. Après, dans tous les cas, un militaire, ça obéit aux ordres qu'on lui donne, et puis voilà.
Ouais. Et le moral des soldats après 3 ans, comment il va ? Comment va votre moral, celui de vos camarades ?
Bah, le moral des soldats dans l'ensemble, il est toujours bon. Après, c'est vrai qu'on prend des cas particuliers de certaines brigades ou certains bataillons. Bon, bah, forcément, les rotations, ils ont peut-être des soucis de remplacement, des soucis d'effectifs. Quelques problèmes d'entraînement, mais tout ça c'est dû. C'est vraiment à trier au cas par cas dans chaque unité qu'on ne peut pas en faire une situation globale négative.
Et est-ce qu'ils. Oui, allez-y.
Les soldats ukrainiens, ils ne sont pas déployés depuis 2022 sur le front. Ils y sont depuis 2014. Moi, je rencontre énormément de soldats qui ont 8, 9, 10 années de guerre derrière eux. Et pour eux, en fait, ces 3 dernières années, l'intensité, oui. Mais sinon, pour eux, ils sont en guerre depuis presque 10 ans.
Et cette trêve, est-ce qu'ils l'espèrent ? Est-ce qu'ils l'attendent ? À tout prix ou pas à n'importe quelle condition, justement ?
Alors, l'attendre, bien sûr. Quelle population ne rêve pas de vivre en paix, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas en abandonnant une grande partie du territoire après les sacrifices qui ont été faits. Et le fait que les plus grandes régions économiques sont maintenant... aux mains et contrôlées par la Russie.
Si un cessez-le-feu flash, qu'est-ce que vous faites ? Vous restez en Ukraine jusqu'au bout ou vous rentrez en France ?
Bah, de toute manière, un cessez-le-feu, c'est temporaire. Voilà. Et on a bien vu au fil des années qu'on peut vraiment pas faire confiance. Alors je dirais pas aux Russes parce qu'ils sont pas, c'est pas eux qui prennent les décisions. Mais on sait très bien que tant que Poutine restera au pouvoir. On peut pas faire confiance au gouvernement russe actuel pour respecter un cessez-le-feu ou ne serait-ce qu'une trêve.
En ce moment, au cœur de ces tractations avec Vladimir Poutine, il y a le sort de Volodymyr Zelensky. On sait que le Kremlin veut sa tête depuis longtemps. Est-ce qu'il a encore la pleine confiance de ses troupes ?
L'armée obéit au président de la République. Ça reste lui le chef des armées, donc par le biais du ministre de la Défense. Donc dans tous les cas, tant que lui il reste président, l'armée continuera à suivre ses ordres.
Et comment les militaires sur le front ont vécu cette altercation, cette humiliation même de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de Donald Trump ?
Bon, ça a été un gros sentiment anti-américain en fait de voir ce. Bon, c'est un sketch, hein. C'est clairement un sketch. Voilà, on assistait plus à une comédie, alors que pour nous, au fond, c'est vraiment cette aide, elle est importante dans l'immédiat parce que les Européens seuls bah ils sont incapables de nous aider à 100%. Ça veut dire qu'il faudrait essayer de tenir, de serrer la ceinture encore pendant 3 à 5 ans si jamais la trêve n'arrivait pas, ou alors espérer que les Russes d'eux-mêmes stoppent. Maintenant, on sait très bien que les Russes stopperont quand eux auront envie de stopper. Mmh. Et pour l'instant, c'est pas fini.
Ça a eu un impact, d'ailleurs, sur le terrain, la suspension pendant quelques jours du renseignement américain.
Alors, de l'aide américaine, non, pas dans l'immédiat, parce qu'on a quand même énormément de réserves. Maintenant, oui, le renseignement américain, on peut clairement voir ça comme un coup de chantage de la part de Trump au gouvernement ukrainien.
Et ça, c'est vous l'avez ressenti, vous, sur le terrain, ça a été un handicap pendant plusieurs jours.
Bah c'est compliqué de pouvoir essayer de prévenir un assaut ennemi qui nécessite une quarantaine, cinquantaine d'hommes. Si du jour au lendemain, bon bah voilà, vous avez une colonne de véhicules blindés qui monte à l'assaut de deux positions ukrainiennes, vous la prenez 4 à 6 heures avant que ça se passe. C'est compliqué de mettre en place une contre-attaque rapide ou même une défense solide sur des petites positions isolées.
Je reviens, Flash, sur le moral des troupes ukrainiennes en cas de cessez-le-feu. S'il y avait un cessez-le-feu, est-ce que ça changerait radicalement la situation? Est-ce que ça pourrait avoir un effet sur la motivation au combat des troupes? Comment vous avez certainement dû en parler avec vos camarades ukrainiens. Comment ils le ressentent, cette perspective d'un cessez-le-feu, même si vous avez dit très justement que un cessez-le-feu ne serait pas forcément respecté? Mais le fait qu'il y ait le cessez-le-feu, est-ce que ça change la donne?
Ah bah ça permettrait de pallier en termes de durée de rotation. Ça permettrait à énormément d'unités ukrainiennes de pouvoir faire plus de rotation, que ce soit pour l'entraînement ou ne serait-ce qu'un vrai repos à l'arrière, ou pouvoir profiter de la présence des familles. Donc au niveau motivation, je pense que ce serait une bonne chose.
Parce que justement, là, l'état d'esprit en ce moment, c'est les soldats sur le front, ils sont toujours aussi combatifs, ou il y a vraiment la lassitude qui a pris le pas?
Ouais, il faut vraiment voir au cas par cas. Il y a des unités où le moral est extrêmement haut, parce que voilà, ce sont des unités, on va dire, rodées au combat avec les années, et certaines autres unités où il y a énormément de mobilisés. Bon bah, quand vous prenez un civil et qu'il est déjà 7 ou 8 mois au front, forcément pour lui moralement c'est très compliqué.
Ça, la guerre.
Est-ce que Flash, les soldats que vous côtoyez, ils sont prêts à faire des concessions territoriales, à lâcher les territoires pour lesquels ils se sont battus pendant 3 ans pour pouvoir obtenir enfin cette paix?
Moi, je combats avec une unité qui est originaire de la ville de Kharkiv, de l'oblast de Kharkiv. Et du coup, pour eux, c'est hors de question, tant qu'il y aura des soldats russes présents dans l'oblast, pour eux, c'est hors de question d'entendre parler d'un cessez-le-feu ou d'abandonner du terrain. Parce qu'ils ont perdu énormément d'amis, énormément de proches pendant ces 3 années. Et ils verraient ça comme un sacrifice inutile.
Ils verraient ça comme un sacrifice s'il y avait des concessions territoriales. J'ai une dernière question pour vous. Comment les soldats voient l'avenir? Est-ce qu'ils croient en une paix prochaine dans les prochaines semaines, comme l'a dit Donald Trump?
Non, honnêtement, pour la plupart, il faut attendre que ce soit fait. Voilà. Quand on est sur place, quand on est passé dans certaines zones, on a vu comment se comportait l'armée russe avec les populations civiles. C'est même envers les soldats hein, qui étaient faits prisonniers, les soldats ukrainiens qui étaient faits prisonniers. Nous, on fait pas confiance, et tant que c'est pas signé, on n'y croit pas. Voilà. Pour l'instant, ça reste des paroles, ça reste du vent. Tant qu'il y a rien de signé, tant qu'il y a rien de concret, on n'y réfléchit pas.
Vous n'y croyez pas, et ce que l'on comprend, c'est que ces combattants ukrainiens, ils sont prêts à se battre jusqu'au bout, et qu'en aucun cas ils accepteront des concessions territoriales. Merci beaucoup, Flash, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci infiniment.